Ce soir, j'aimerais vous partager une réflexion sur l'impermanence. C'est très utile d'approfondir l'impermanence parce que c'est ce qui permet de nous faire lâcher prise de cette inquiétude où je dois savoir. Ce stress, je dois avoir une sécurité, une assurance. L'impermanence, lorsque nous la vérifions par notre expérience, nous amène naturellement à être OK avec le fait que je ne sais pas. Et ça crée une forme de libération, de liberté intérieure. Je n'ai pas besoin de contrôler, de manipuler. De toute manière, ça va changer. Et ça fait que j'arrête quelque chose qui me prend énormément d'énergie, qui est très fatigant et qui m'enlève la joie de l'instant. L'impermanence, on en a un petit peu parlé, peut être vue à tous les niveaux. Très très vite, ça change. Le mot que je viens de dire, il est déjà fini. Dans une journée, ça change. Dans une même activité, ça change, et ça, dans une retraite, c'est très intéressant de voir comment j'ai beau essayer d'avoir à nouveau cette tellement bonne expérience que j'ai eue dans la dernière assise, il n'y a pas d'assurance. Ça a changé. Mais c'est vrai aussi dans notre vie. L'autre jour, je regardais ma main.
C'est incroyable! J'ai une main de vieille!
Je me disais, mais attends, c'est vraiment ma main! Ça change au niveau de la santé. Tout à coup, nous tombons malades. Et nous ne sommes pas prêts à tomber malade. J'aime bien ces Consponville qui disaient, c'est vraiment drôle parce qu'on est tellement triste quand on tombe malade, mais on n'est jamais tellement content parce qu'on est en bonne santé. Ça change au niveau plus large. Je me souviens, j'habitais dans une communauté dans les années 70 et puis on avait, au niveau du village, fait toute une rencontre avec des gens, c'était un peu des gens écolos, des gens... Puis il y avait un médecin, il y avait le gars de Neuchâtel, là, comment ça s'appelle, le paysan. À l'époque, c'était ça, son heure de gloire. Comment il s'appelle?
Cuche.
Et puis il y avait... un médecin qui était un médecin politique. C'est la première fois que dans la médecine je voyais un médecin politique. Et puis il disait une chose intéressante, jusque dans les années 70 la santé a été parallèle au niveau de croissance industrielle et autres, et à partir des années 70 l'industrie a continué à partir, et puis ça a été la ruine de l'humanité. Mais il y a eu ce qu'on appelle les glorieuses, où on croyait vraiment que le succès, que le progrès allait être la panacée. L'impermanence. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus arrêter ce mouvement. C'est extraordinaire. Où est-ce que ça va nous mener? L'impermanence des civilisations. L'Europe a eu son heure de gloire, maintenant c'est probablement la Chine. Il y a eu l'Égypte, il y a longtemps. Il y a eu l'Inde, il y a eu l'Amérique du Sud, avec les Incas, les Aztèques. Les civilisations éclosent et puis disparaissent. Et la Terre, à un niveau beaucoup plus large. Quand on étudie l'anthroposophie, ils sont plus là, les deux anthroposophes. Quand on utilise, quand on, il y a quelqu'un qui est dans l'anthroposophie ici. Steiner a parlé de plusieurs incarnations de la Terre. Donc cette réflexion sur l'impermanence nous donne confiance dans le fait que la vie est incertaine. Et c'est une confiance qui est extrêmement bénéfique. Parce que d'avoir cette espèce de rêve de la certitude, c'est stressant. Nous allons à contre-courant du réel. Et c'est la raison directe de nos attachements. Si nous savons vraiment que de toute façon ça change, l'attachement naturellement lâche. C'est Ajahn Chah qui dit « Celui qui sait reconnaître clairement que tous les phénomènes sont changeants et insubstantiels. Celui qui sait ne devient pas triste ou joyeux parce qu'il ne suit pas les conditions qui changent. Devenir joyeux, c'est naître. Devenir triste, c'est mourir. Étant mort, nous naissons à nouveau. Et étant nés, nous mourrons encore. La naissance et la mort de chaque instant, c'est la roue sans fin du samsara. » Le moi a de la peine à accepter l'impermanence. Le moi, il aimerait être permanent, sans souffrance, et bien moi. Donc, dans une retraite, c'est essentiel d'abord de se préparer à l'impermanence, et la meilleure manière de le faire, c'est de voir nos attentes. Quelles attentes j'ai avant une retraite? Quelles attentes j'ai le matin? Quelles attentes j'ai au début de l'assise? Ces attentes impliquent automatiquement une séparation parce que je suis là avec ce qui est là et j'aimerais autre chose. C'est moi qui crée la séparation dans l'instant. Et je ne le vois pas, souvent je ne le vois pas. Ce sont ces projections inconscientes qui partent d'un moi qui est aveugle, qui donne trop d'importance à l'expérience. Lorsque nous apprivoisons l'impermanence, nous sommes moins choqués par le changement de la vie, à l'intérieur et à l'extérieur. Quelque chose s'assouplit, devient plus flexible, et dans ce que je partageais l'autre jour, contact, ressenti, perception ou pensée associative, ce qu'on appelle les agrégats de la cellule. Avec l'impermanence, nous pouvons mieux ressentir ce que nous perdons quand tout à coup l'esprit fixe. Lorsque l'esprit fixe et qu'il ne le voit pas, nous perdons l'espace, nous perdons le discernement, le calme, la confiance, l'ancrage. Et c'est la confusion. Le stress et la réactivité, la peur pour moi ou pour l'autre. Notre attitude change lorsque nous nous habituons à voir cette manière de vouloir avoir la sécurité dans la projection de mes attentes. L'attitude se rapproche de la libération. Et c'est intéressant de voir que si nous prenons les choses sous l'aspect de la compassion, ou de la souffrance, ou de l'impermanence, ce sont des aspects différents qui mènent exactement à une même chose. C'est que ça fait ça. Et en même temps ça. Et puis en même temps ça. En tout cas, ça fait pas ça. Et puis pas ça. On voit bien ce que ça ne fait pas. Le travail de voir le début et la fin des choses, c'est l'autre aspect extrêmement, les attentes, mais aussi chaque chose a un début, un temps de vie et une fin. Chaque mouvement, à tous les niveaux. Et au lieu de toujours focaliser sur l'objet des sens, nous pouvons focaliser simplement sur le début, le temps de vie et la fin des choses. Et ça crée une sagesse qui est importante parce que nous nous libérons de ce trop d'importance que nous donnons au monde visible. Et alors nous nous rendons compte que c'est vraiment vrai, c'est une loi à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Tout a un début, un milieu et une fin. Et nous contemplons ce côté inéluctable. D'abord dans le corps, mais aussi au niveau émotionnel. Au niveau de la conscience est bien concentrée, et puis après, elle va n'importe où. Impermanent. Et à la fin d'un temps d'assise, nous pouvons voir, si vous avez été conscient tout le long, ah ouais, ben, il y a eu la conscience, alors maintenant, ok, maintenant je me lève, peut-être j'oublie à ce moment-là, d'être là. Cette impermanence liée à l'émotionnel où nous sommes parfois détendus, parfois tendus, parfois rosés, parfois agités, parfois somnolents, parfois alertes. Nous identifions beaucoup à ces états d'âme, mais ils ont tous un début, un temps de vie et une fin. Et nous pouvons très bien dans une journée décider que nous les observons rien que comme ça. Quand c'est que la somnolence a commencé? Ah ouais. À combien de temps elle a duré? Oh, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Oh, maintenant elle n'est plus là. Maintenant il y a quoi? Oh, maintenant c'est agité. Allez, début de l'agitation. Combien de temps? Ah, maintenant c'est fini. Maintenant il y a quoi? Ah, bah, c'est calme. Ah, bon, ah, début du calme. On va voir combien de temps ça dure. Ah, fin du calme. Il y a quoi? Oh, j'en ai ras-le-bol. Ah, aversion. Ah, début de l'aversion. Ah! Fini la cloche sonne. Début de la joie. On va voir combien de temps ça dure. Et ça libère vraiment de cette tendance du moi de s'accrocher à ce qu'il aime et de rejeter ce qu'il n'aime pas. Ça donne cette qualité d'équanimité. Et nous nous approchons de la sagesse de reconnaître que le monde est conditionné, au lieu de le prendre pour vrai. Au niveau interrelationnel aussi, les choses sont impermanentes. Nous pouvons être très proches de quelqu'un pendant un certain temps, et puis après moins. Nous pouvons avoir l'impression que c'est une relation merveilleuse, privilégiée, et puis après ça tombe. Mais ça n'est que la superficialité des choses. Lorsque l'autre me valorise, ou qu'il est généreux, ou qu'il m'encourage, alors nous pouvons voir combien nous aimons, combien... Et puis quand ça change, on peut voir comme on aime moins. Mais nous n'avons pas besoin d'abonder dans la réalité de cette chose-là. Nous pouvons voir, oui, ça change. C'était pas comme ça avant, ce sera pas comme ça après. Et du coup, j'ai pas besoin d'aller lui demander pourquoi, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui s'est passé, ça calme le jeu, quoi. J'attends tranquille que ça change, de toute façon, ça va changer. Quelquefois la sagesse change, quelquefois tout est simple et bon, et puis tout d'un coup tout devient complexe et menaçant. Et des fois il n'y a pas grand chose qui a changé à l'extérieur. C'est étonnant, c'est un peu la même vie en gros. Mais elle me paraît, super, bonne, tranquille. Puis tout d'un coup, waouh, c'est quoi cette vie? Oh, horrible. Et quelquefois, nous avons de grosses épreuves que tout le monde peut objectivement reconnaître comme étant une grosse épreuve. Que ce soit une épreuve personnelle, une épreuve collective. L'impermanence, c'est aussi ça. Et une chose qui aide beaucoup, c'est de garder cette confiance que l'épreuve est toujours à la hauteur de ce que nous pouvons porter. Que ça n'est pas une malchance ou une malédiction, mais que c'est là pour me permettre de grandir. Et heureusement, il y a le temps qui fait que l'impact douloureux de l'épreuve diminue. Et à un moment donné, c'est fini. Et il y a l'impermanence des pensées. Ça, c'est un assez gros paquet parce que nous croyons beaucoup à ce que nous pensons. Et c'est difficile de nous souvenir que la pensée est impermanente. Que nos systèmes de valeurs changent. Que comme je pensais il y a 10 ans, c'est pas pareil que comme je pense aujourd'hui. Ce ne sera pas pareil que comme je penserai dans 10 ans. Nous croyons à nos opinions, nous croyons à la permanence de la pensée. Peut-être que Descartes a un peu aidé en disant « je pense donc je suis ». Mais même avant Descartes, on y croyait déjà. Il y a cette petite histoire avec Descartes. Je vous la lis, je l'ai trouvée. C'est Descartes qui entre dans un bistrot puis qui commande un café. Et puis il boit son café. Et puis un peu plus tard, il y a le serveur qui va vers lui puis qui lui demande « vous en voulez encore un, monsieur ?» Et puis Descartes répond « non, je ne pense pas ». Et il disparaît. Lorsque nous approfondissons l'impermanence, il y a une forme de lâcher prise de la raison, de cette quête de questionner pourquoi, pour trouver mais qu'est-ce qu'il y a là derrière pour que je sois sécurisée, que je sache. La raison lâche tranquillement. Et pour que cette cet espace se crée dans nos pensées, nous pouvons vraiment voir comment chaque pensée a elle aussi un début, un temps de vie et une fin. Et lorsque vous êtes pris par la pensée obsessionnelle, il y a différents outils à employer, mais c'en est un qui est pas mal. Juste de réfléchir, attends, alors comment c'est, quand cette pensée ? Moi je me suis assis, il y a eu 5-10 minutes, puis ça y est, c'était là. Ah ouais, bah maintenant je suis dedans, quoi. Et tout d'un coup, oh, c'est fini. Ok, fini. Et vous pouvez le voir avec toutes les petites pensées qui émergent. Quand vous voyez qu'il y en a eu une, hop, début, milieu, fin. Vous pouvez aussi voir le début, le milieu et la fin de l'absence de pensée. Ce que nous avons en commun, ce n'est pas le contenu du mental, c'est incroyable, je crois qu'autant qu'il y a d'individus sur cette planète, autant il y a de contenus différents. C'est dingue, hein? C'est vraiment dingue. Mais ce qui nous concerne tous et qui nous lie tous, c'est que chaque pensée a un début, un temps de vie et une fin. Et bien sûr, nous pouvons traiter les pensées en termes de qualité, passé, futur, jugement, imaginaire, qu'est-ce que vous avez d'autre ? Doute.
Évaluation.
Hein ?
Évaluation.
Évaluation.
Fantaisie.
Fantaisie, imaginaire. Ouais. Mais l'impermanence, voir comment. Et aussi focaliser sur la fin des pensées. Toujours voir, ah tiens, fini. En général, l'emprise conceptuelle est liée à l'émotionnel et nous sommes vraiment pris dans j'ai raison, il a tort. Toute la justice est basée là-dessus. Sur un refuge dans la raison. Ça fait partie du monde conditionné, ça a son utilité. Mais c'est aussi... C'est Abhijja. Ça ne coupe pas la souffrance à la racine.
Je vais vous dire. Ah, il est là.
Oh, raison, je crois que c'est Rumi qui dit ça. Rumi, c'est un soufi. Génial. Ô raison, va-t'en, il n'y a aucune sagesse en toi. Même si tu n'étais qu'un cheveu, il n'y a pas de place pour toi. Voilà le soir qui arrive. Quelle que soit la bougie que tu allumes, elle n'est rien à côté du soleil. La raison, elle cherche le fautif, celui qui est à juger. Elle cherche la justice. Ok, dans le monde conditionné, c'est une valeur qui est là. Mais il y a une alternative. Et l'alternative, c'est simplement d'avoir moins peur, d'être plus en confiance avec l'impermanence. Et c'est beaucoup plus sûr. C'est beaucoup plus sûr. Les erreurs judiciaires, ça existe. Ça peut nous arriver. Ajahn Chah qui dit, si tu sais que toute chose est impermanente, tes pensées vont perdre peu à peu leur importance. Tu n'auras plus besoin de trop penser. Quand une pensée émergera, tout ce que tu auras à dire, c'est « Ah, en voilà une autre Donc, d'une certaine manière, de connaître par l'expérience l'impermanence à tous ses niveaux et de le connaître avec cette qualité de sammasati, d'une pleine conscience qui est en même temps bienveillante, accueillante et qui s'est lâchée, qui n'y croit pas. C'est être libre, c'est connaître le Dharma. C'est une sagesse universelle, même si le Bouddha l'a particulièrement développée. Je disais, c'est rare qu'on ait de la sagesse africaine. Et il y a un très beau griot qui s'appelle Amadou Ampateba. Et puis, il dit deux, trois choses. Là, une chose toute simple. Chaque belle journée est inévitablement suivie d'une nuit profonde. C'est vrai dans la nature, c'est vrai dans nos vies, c'est vrai dans la vie des autres. Et pour les autres, de pouvoir leur faire voir l'impermanence, c'était pas comme ça avant. C'est comme ça maintenant, ce ne sera pas comme ça après. Ça les aide eux aussi à avoir une perspective, plutôt que le nez dans l'expérience, avec toute la souffrance que l'identification engendre. On pourrait dire que dans le développement du chemin intérieur, la première phase, c'est une découverte où nous sommes encore sous l'influence de l'enchantement du moi. Nous prenons le monde à l'intérieur et à l'extérieur comme durable, permanent, vrai, objectif, solide, comme étant la seule réalité. C'est le monde exotérique. C'est aussi le monde de la soif et de l'aveuglement. C'est celui où nous défendons notre point de vue, notre biftec, notre... C'est le monde des guerres, des conflits, de la polémique. Avec, entre deux, la beauté naturelle du monde conditionné. Dans ce monde-là, il y a aussi l'ombre et la lumière. Il y a déjà l'ombre et la lumière. Et lorsque nous nous mettons en chemin, nous développons quelque chose qui est plus ésotérique. Nous venons à l'intérieur. Et alors le Bouddha parle de ce chemin noble. Et il est noble parce que justement nous nous dégageons de ce qui est conditionné. Nous nous libérons de... Quelqu'un parlait d'être un fétu de paille. Il y a une forme de retournement où je sais l'impermanence, je sais que ça ne peut pas être toujours comme je veux. Et je le sais tellement bien que ça lâche. La sagesse émerge à la place de cette obstination du moi à aller à contre-courant. Les chrétiens parlent de ce retournement où je sais que tout est en moi et que c'est moi qui crée la souffrance et que c'est moi qui crée la libération. Et la pleine conscience aide beaucoup, c'est Thich Nhat Hanh qui dit la pleine conscience c'est la lumière, l'oubli c'est les ténèbres. Illuminer l'expérience, c'est ce qui permet de lâcher ce pouvoir que nous donnons à l'autre et au monde pour venir dans cette responsabilité intérieure, ici et maintenant. Comment est-ce que j'apaise l'expérience pour moi et pour l'autre? Et c'est là que nous commençons à prendre ces énergies de joie et de peine pour ce qu'elles sont, les énergies dans l'instant que je peux conscientiser. Et il y a une immense différence entre être en colère parce que l'autre a fait Dieu sait quoi, ou bien voir il y a la colère, c'est où? Et que je suis en colère non pas à cause de l'autre ou à cause de la situation, mais parce qu'en moi il y a un potentiel qui peut laisser l'autre prendre ce pouvoir et que c'est à moi de soigner, de donner du soin à cette colère qui est là. Ça n'est jamais à cause de l'autre. L'autre éveille certaines choses. Mais ces choses sommeillent, et si ce n'est pas lui qui les réveille, ce sera quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas par hasard que ces choses sont éveillées. C'est pour que nous les voyions et que nous faisions œuvre de connaissance directe, de bonté, d'amour. Ma petite colère. Je me souviens, il y a longtemps, on était... Il y avait un pique-nique dehors avec plein de monde, des petits, des grands. Puis il y avait mon petit-fils, celui qui a 18 ans aujourd'hui, ça change. Il était tout petit, il avait 2-3 ans. Et puis il ne voulait pas aller dans la forêt parce que c'était tout noir. Puis il voulait que je lui donne la main. Puis je lui ai dit, ben viens, alors on y va. Puis une main, ça ne suffisait pas, il fallait qu'il ait une deuxième main. Alors mon mari qui a pris la main de l'autre côté. Puis on est allé dans la forêt, puis je lui disais, tu sais, Timour, il ne faut pas que tu aies peur. Tu peux lui dire, mais coucou, ma petite peur, je n'ai pas peur de toi, tu es où ? Bref, on a fait un petit tour dans la forêt. Puis c'était chou parce qu'au bout d'un moment, il est allé vers un grand ado de 16 ans, le fils à Claire Chalet. Puis il lui a dit, Antoine, viens, tu viens avec moi dans la forêt ? Et puis une main, il n'y avait plus qu'une main. Et puis je l'entendais qui disait, alors tu sais Antoine, si tu as peur, hein, tu dis juste, coucou ma petite peur. Il avait bien pigé. Et alors, peu à peu, les choses perdent de leur aspect redoutable et menaçant, de leur enjeu, de leur poids. Et la vie devient un jeu sacré. Retrouver notre cœur d'enfant, nous pouvons jouer à vivre. Mais ça demande que l'impermanence soit claire et que nous sachions que là-dedans, il n'y a personne de fixe. Il y a juste quelque chose qui est conditionné et qui, à un moment donné, il y a toutes ces choses qui se mettent ensemble et puis qui font que, waouh, miracle, j'arrive à parler, à dire Anne, miracle! Pas un truc qui m'appartient, qui est... C'est juste quelque chose à observer, à voir, à contempler, à recevoir, à apprécier. Et nous employons ce moi plutôt que ce soit lui qui nous emploie. Donc la conscience de l'impermanence permet un respect de l'être, ici et maintenant, et un lâcher prise du contrôle, du stress, et de ce besoin d'anticipation, de devenir, d'avoir les choses justes, impeccables. Ouf, fatigant. La libération, c'est le passage du rêve d'être un moi séparé à l'éveil d'être la réalité universelle. Le rêve, c'est pas le nirvana. Le nirvana, c'est le réel. Le rêve, c'est cette vie que je conçois de cette manière tellement limitée. C'est une forme d'hypnose. Et avec la méditation, nous sommes dans la déshypnose. Je vais finir avec une petite parole d'un livre qui s'appelle La promenade. C'est un chemin qui est une promenade. Avec les années, mon expérience a fait fleurir une ou deux certitudes, et entre autres celle-ci, l'homme en devenir ne va nulle part ailleurs que vers lui-même. Si ce devenir est conscient, il aboutira au cœur de son être. Si ce devenir est inconscient, il ne cessera pas de devenir et redevenir encore sa propre misère. Il n'y a pas d'autre devenir. à oser devenir mes émotions les plus grossières, puis mes sentiments les plus transparents, j'ai fini par cesser de devenir. Ce moi-même continue sans doute de nager dans la rivière et de jouer avec son courant, ses détours tranquilles et ses chutes vertigineuses. Mais je le regarde devenir, et je trouve dans ce regard une connexion directe avec la vie en moi. Plus qu'une connexion, une fusion consciente avec le vide somptueux qui constitue mon essence. Là, plus de devenir, juste quelques rayons de lune qui se dispersent et se recomposent dans les frissons d'un lac. Je vous propose de prendre quelques minutes en silence.